podcast RFHT.
Bonjour à tous, je suis Johan Repessé, hématologue au CHU de Caen, et nous allons discuter aujourd'hui de la prophylaxie dans la maladie de Villebrand avec Camille Paris, qui travaille au Centre d'hématologie transfusion au CHU de Lille. Cette année, comme vous le savez, sont parues les recommandations internationales réalisées par l'ASH, l'ISTH et la WFH concernant le diagnostic et la prise en charge de la maladie de Villebrand. Dans ce document, la prophylaxie est définie comme une période d'au moins 3 à 6 mois de traitement par un concentré de facteur Villebrand qui est administré au moins une fois par semaine ou pour la prise en charge des ménométroragies chez la femme avec des injections au moins une fois par cycle menstruel. Alors Camille, peux-tu nous en dire plus sur les indications de prophylaxie dans la maladie de Villebrand ?
Oui Johan, donc comme tu le sais, hein, il n'y a pas vraiment de consensus sur les critères d'initiation de la prophylaxie dans la maladie de Villebrand, contrairement à l'hémophilie où les choses sont beaucoup plus définies, et à la fois donc sur les critères d'initiation ni sur le schéma thérapeutique qui est à privilégier. Les données publiées dans ce domaine, elles sont limitées et elles sont publiées sur des effectifs réduits. Donc les recommandations de l'ISTH que tu viens de nous présenter suggèrent que la prophylaxie est indiquée chez les personnes qui présentent des saignements sévères et fréquents, comme les épistaxis, les hémarthroses, les hémorragies digestives et les ménorragies. Alors un saignement est jugé sévère s'il nécessite une hospitalisation, un geste chirurgical, une transfusion globulaire ou bien s'il entraîne la perte d'au moins 2 points d'hémoglobine, ou s'il implique bien sûr des sites engageant le pronostic vital et fonctionnel, comme les hémorragies intracrâniennes, intramédulaires, intraoculaires, rétropéritonéales, mais aussi les hémorragies intra-articulaires, péricardiques ou intramusculaires avec syndrome des loges. Donc là, on a parlé du critère de sévérité. Ils indiquent également que les saignements doivent être fréquents. Donc pour ce critère de fréquence, ces recommandations rappellent que le seul essai randomisé évaluant la prophylaxie parlait d'au moins 5 saignements sur 12 mois ou 3 épisodes d'hémarthrose dans la même articulation ou 2 hémorragies digestives occultes associées à la présence d'angiodysplasie et nécessitant un traitement par le facteur Villebrand. En pratique, l'indication de la prophylaxie repose sur la sévérité de la maladie de Villebrand, associée à l'histoire hémorragique, aux comorbidités et aux besoins individuels de la personne à traiter.
Merci Camille pour ces précisions. Alors dans le PNDS, donc le protocole national de soins qui a été rédigé récemment pour la maladie de Villebrand, on retenait principalement comme critère d'instauration d'une prophylaxie. Dans la maladie de Villebrand type 3, c'était l'apparition d'une hémarthrose chez l'enfant donc, atteint du phénotype le plus sévère, donc du phénotype de type 3, car le risque d'arthropathie du fait du déficit combiné en facteur 8 est quasiment identique à celui d'un jeune patient hémophile sévère ou modéré. Et pour les autres patients en dehors de ce sous-type 3, on retenait les critères qui ont été définis en 2015 par Paul-André Holm, qui collabore dans le registre scandinave de prophylaxie, donc avec comme principale indication les hémarthroses, les hémorragies digestives, les ménorragies et les épistaxis. Et donc ce protocole national de soins sur la maladie de Villebrand est disponible sur le site de la HAS et sur le site de la filière MEMO pour si vous voulez plus de détails sur ces critères. Et donc maintenant, après avoir posé l'indication de prophylaxie, est-ce que Camille, tu peux nous parler un petit peu plus de la durée des traitements, des schémas de traitement et des modalités de suivi de l'efficacité de cette prophylaxie?
Oui, alors concernant la durée de traitement, classiquement, la majorité des personnes reçoivent un traitement d'au moins 6 mois avant de juger de l'efficacité de la prophylaxie. Hein, ça prend du temps. Si on choisit avec la personne traitée de poursuivre la prophylaxie au-delà des 6 mois, il faudra mettre en place, pardon, une réévaluation au minimum 2 fois par an des symptômes et de l'indication du maintien de la prophylaxie. Donc c'est un suivi qui est rapproché quand on retient cette indication. Alors, quel schéma thérapeutique? Habituellement, on propose des injections entre 30 et 50 unités par kilo par injection et faites 1 à 3 fois par semaine en fonction de l'indication. En cas de nouvel épisode hémorragique sévère qui surviendrait malgré cette prophylaxie en place, on propose un schéma d'augmentation de fréquence des doses par palier. Donc on démarre souvent avec un nombre d'injections par semaine qui sera ensuite incrémenté en fonction du phénotype hémorragique du patient. Bien sûr, si le phénotype hémorragique est d'emblée très sévère, on aura un schéma thérapeutique à 2 à 3 injections par semaine dès le départ. Donc c'est vraiment au cas par cas en fonction du phénotype du patient. On prendra également en compte dans cette décision, bien sûr, la qualité de l'accès V2, puisque ces injections sont faites par voie intraveineuse et certaines personnes ont un capital veineux qui ne permet pas d'avoir des injections aussi répétées sur des durées aussi prolongées. Et chez eux, il faudra envisager parfois la pose d'une chambre implantable qui pourra s'avérer nécessaire.
Merci Camille. Et donc, on n'a pas parlé pour l'instant des différents types de concentrés de facteurs Willebrand. Et en France, on dispose actuellement de différents concentrés de facteurs Willebrand. Donc, soit des facteurs Willebrand plasmatiques qui contiennent à la fois du facteur Willebrand et des quantités variables de facteur 8, ou un concentré de facteur Willebrand recombinant, dont nous vous parlerons après. Donc, finalement, en prophylaxie au long cours, les données d'efficacité et de sécurité qui sont publiées rapportent des données qui sont équivalentes et ne permettent pas finalement de prioriser l'utilisation d'un type de concentré par rapport à un autre pour les concentrés qui ont des AMM dans ces indications. Et ces traitements ne couvrent néanmoins pas l'ensemble des besoins pour les patients avec une maladie de Willebrand. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ces limites des traitements actuels?
Oui, donc effectivement, après l'instauration de la prophylaxie, malheureusement, certaines personnes échappent au traitement. En particulier, hein, ça c'est bien connu, celles présentant des hémorragies digestives. Donc bien sûr, en parallèle de la prophylaxie, pour ces patients-là, on propose des traitements complémentaires, des traitements locaux avec des procédures endoscopiques et aussi des traitements associés par voie générale avec des médicaments comme l'octréotide en première ligne et parfois même des traitements anti-angiogéniques comme le bevacizumab ou le lénalidomide après discussion pluridisciplinaire des dossiers, bien sûr. Mais néanmoins, on attend beaucoup de l'essai de phase 3 concernant le Vonicog Alpha, qui pour l'instant dispose de l'AMM en France uniquement pour le traitement des saignements et des chirurgies, mais pas encore pour la prophylaxie, hein, puisque l'essai est en cours, puisque ce produit contient des multimères de très haut poids moléculaire du facteur Willebrand. Et ça, c'est intéressant dans ces cas-là parce que on sait que le rôle du déficit en multimère de haut poids moléculaire du facteur Willebrand est central dans l'apparition des géantiodysplasies avec des hémorragies digestives qui sont 2 fois plus fréquentes, par exemple chez les Willebrand type 2A qui n'ont pas ces multimères de haut poids moléculaire par rapport au type 2M. Ce lien avec les formes de haut poids moléculaire, il apparaît également de façon évidente dans les formes de syndrome de Willebrand acquis cardiovasculaire, qui sont caractérisées par un déficit de ces hauts poids, et avec la survenue d'angiodysplasie qu'on appelle communément le syndrome de Head. En plus, pour les espoirs pour ce nouveau traitement, c'est que la demi-vie est plus longue chez certaines personnes, comme on a pu le voir lors des communications à l'ISTH cet été 2021, au cours de 2 communications. Donc, cette demi-vie plus longue, elle pourrait chez certains patients permettre d'alléger la prophylaxie. et préserver davantage de capital veineux parce que dans ces indications-là, on est souvent à 3 injections par semaine avec les produits plasmatiques. Donc la réduction du nombre d'injections, évidemment, contribue à l'amélioration de la qualité de vie, des patients.
Merci Camille. Donc finalement, il est possible chez des patients pour lesquels finalement l'efficacité des concentrés plasmatiques n'est pas optimale de pouvoir proposer une prescription hors AMM de Vonicog Alpha dont tu viens de parler, car nous sommes toujours en attente des résultats des essais cliniques de prophylaxie. Et donc enfin, nous avons mis en place en France une validation de cette prescription hors AMM. Et donc, nous proposons une validation des indications dans le cadre d'une RCP, donc d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est réalisée de façon nationale par le Centre de référence de la maladie de Villebrand, après avoir vérifié que la pharmacocinétique du Vonicog alpha est meilleur chez la personne pour qui on envisage un changement de traitement. Alors, juste pour faire un bref rappel concernant les RCP qui sont gérés par le CRNW, donc ces RCP ont lieu environ 3 fois par an et vous pouvez retrouver le calendrier des RCP sur le site de la filière Mémo. Et dans le cas d'une prescription hors AMM de Vonicog alpha, donc le suivi des patients devrait être rapproché avec une consultation tous les 3 mois dans le cadre de l'Observatoire du médicament.
Donc, Johan, jusqu'à présent, on a évoqué le cas des patients non immunisés, mais une autre limite des traitements plasmatiques actuels en prophylaxie, c'est bien sûr la survenue d'une alloimmunisation contre le facteur Willebrand. C'est une complication rare par rapport à l'hémophilie, mais grave de la prophylaxie et de la maladie de Willebrand type 3. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les possibilités thérapeutiques chez ces patients?
Alors oui, effectivement, Camille, on pourra avoir recours selon la situation clinique, soit à un concentré de facteur 8 recombinant, donc qui est pur et qui ne contient pas de molécules de facteur Willebrand, soit à un concentré de facteur 7 activé recombinant, qui permet de court-circuiter l'effet inhibiteur, et exceptionnellement, depuis finalement assez peu de temps, par la prescription d'une thérapeutique non substitutive, qui est un anticorps bispécifique, dont la DCI est l'émicizumab. Donc, après avoir motivé cette demande auprès du centre de référence de la maladie de Villebrand, au décours d'une RCP, comme je le présentais tout à l'heure, pour la prescription de Vonicog alpha dans le cadre d'une prophylaxie. Donc, ces situations sont hors AMM et doivent être discutées finalement au cas par cas, et les avis doivent être colligés dans le dossier médical du patient en indiquant l'argumentaire clinique et scientifique qui sous-tend la prescription qui a été retenue dans ces situations qui sont très complexes. Alors, Camille, pourrais-tu synthétiser et conclure finalement ce dont on vient de parler concernant la prophylaxie dans la maladie de Villebrand.
Oui, donc finalement, pour ces indications de prophylaxie, le niveau de preuve reste faible pour ces recommandations que nous avons évoquées. On aimerait à l'avenir pouvoir disposer d'essais randomisés sur le traitement prophylactique comparé au traitement à la demande, en particulier chez les patients qui ont des saignements des muqueuses. On aimerait également disposer d'études sur la prophylaxie dans l'hyperménorrhée, dans les hémorragies digestives, sur l'impact de la prophylaxie sur la qualité de vie, sur la comparaison plasmatique versus recombinant, bien sûr, et également le rôle des antifibrinolytiques en parallèle de la prophylaxie pour les saignements muqueux. Et enfin, le rôle des traitements antiangiogéniques dans les hémorragies digestives qui font l'objet de publications de cas, mais où on aimerait avoir davantage de données dans des essais randomisés. Donc, il y a encore du chemin à faire sur ces indications.
Merci Camille, j'espère que ce podcast vous a intéressé et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast sur le site RFHT.
Podcast RFHT.